sur bon, film de la parole, mise à la question de la parole, mais aussi film de cinéma. On reparlera de la théâtralité de la parole, mais il y a une mise en scène de la parole à travers l'image. Il s'agit de rendre visible la parole et de capturer les émotions que cette parole suscite chez celui qui la profère et chez celle, puisque ou celui, ce sont le plus souvent des femmes, mais aussi les amis d'Alexandre, chez celui qui l'écoute. Et dans cette perspective-là, Eustache a recours à un moyen cinématographique constant qui est celui du chant contre-champ, en utilisant toutes les variations possibles de cette figure très classique, très austère et épurée du champ contre-champ. Plein cadre, de face, de biais, de profil. Alors, il s'agit de cadrer celle qui écoute et de tenter de lire sur son visage, au-delà de l'impassibilité que souvent elle affecte, la survenue brutale et bouleversante des émotions qui trahissent son intériorité.
Ouais, de cadrer l'intériorité, c'est ça, oui, d'essayer de capter l'intériorité. Oui. Ce qui n'est pas facile, quant à l'émotion, si tu veux, chez Léo, c'est très difficile de l'apercevoir dans son jeu, quand même. Hein. C'est ça le paradoxe.
C'est ça qui est étonnant, tu vois.
Ouais.
Pardon. Et puis aussi, il me semble que lorsque il y a un chant contre chant où celle qui écoute est cadrée pleine face, le regard est un regard qui fixe le spectateur. Donc nous sommes regardés par le personnage par le film, et c'est certainement une des sources du malaise que l'on éprouve et en même temps de l'émotion qui nous envahit.
Nous sommes interpellés.
Tout à fait, oui, par ce regard insistant.
Et justement, parfois, cette interpellation, on ne sait pas trop quoi en faire. On a parlé de ça un peu avant de venir. C'est-à-dire qu'on est interpellé par le film, alors on est un peu déstabilisé parfois.
Mm-hmm. Oui, on est un peu déstabilisé. Je pense à un moment dans... un long monologue de Léo dans un café, et il raconte à Véronica sa liaison avec Gilberte,
oui, oui.
Mais en fait...
La Proustienne Gilberte.
Oui, mais en fait, Léo Eustache, si on veut, raconte à Véronica, qui joue le personnage de l'infirmière, ce qu'elle-même a vécu avec lui. Et à un moment donné, au début du monologue de Léo, la caméra fixe le visage de Françoise Lebrun, donc Véronica, et on voit les larmes qui montent dans les yeux de Françoise Lebrun, à un moment où, dans le monologue d'Alexandre, rien ne semble justifier cette émotion. Après un nouveau contre-champ sur Léo, il revient encore au visage de Véronica, Françoise Lebrun, et on voit alors les sillons des larmes qui coulent sur ses joues, et
le
malaise du spectateur qui ne sait pas s'il s'agit de l'émotion du personnage ou bien s'il s'agit de l'émotion de Françoise Lebrun qui entend raconter la façon violente et déchirante dont ils se sont confrontés. Allez, un autre extrait. Il s'agit pour Eustache de ne pas perdre le souvenir de ce qui a été vécu. Et cette lutte contre la perte, c'est le cinéma qui permet de la réaliser. Cela explique sans doute son goût pour des vieilles chansons populaires, en particulier celle
d'Amia
Damia,
un
souvenir. Et on va entendre dans cet extrait la manière dont s'articule dans la séquence le disque que Alexandre écoute seul chez lui, et puis au téléphone l'appel que Véronica lui fait pour lui fixer un rendez-vous.
C'est-à-dire, c'est une musique interne au plan.
Intradigétique, c'est-à-dire que les acteurs mettent eux-mêmes la musique.
Oui, c'est ça.
Comment tu dis ? Intradigétique.
Intradigétique.
À l'intérieur du récit.
Il n'y a pas de musique additionnelle.
Oui, l'intérieur du dialogue.
Les acteurs mettent le disque, et on entend le disque, d'ailleurs, la totalité de la chanson. Hein, donc c'est le cas de Piaf, c'est le cas de Damien.
On va peut-être pas le faire, là, parce que ça va être un peu long.
Donc c'est un souvenir d'Damien.
Voilà, c'est ça, c'est très original. Le cinéma avait rarement fait ça.
De la merveilleuse aventure qui un jour a pu nous unir, où je garde malgré ma blessure l'ineffaçable souvenir. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève.
Allô? Allô, oui, c'est moi.
C'est un auditeur qui t'en parle de l'appareil. Je peux m'excuser, je suis désolée pour hier, mais je n'ai pas pu libérer. J'étais retenue par une urgence, ça n'a pas été possible. Vous êtes furieux?
Oh non, pas du tout, je dirais même que je suis très content.
Vous vous moquez de moi?
Mais je vous assure que non, ça n'a aucune importance. Je ne vous en veux pas du tout, au contraire. Mais on pourrait remettre ça, si j'ose dire. Avec cette petite différence que j'espère que cette fois, vous viendrez.
Mais je ne sais pas ce soir, si vous voulez.
Enfin, moi, je peux ce que je veux. Ce soir, alors, où voulez-vous?
Ce soir à 5h ou même en
3h. Entendu, ce soir à 5h.
Oui, alors ce sera le début d'une succession de rendez-vous après le premier rendez-vous manqué, puisque Véronica ne s'est pas rendue...
Volontairement.
Oui, volontairement, oui, au Flore, où elle devait retrouver pour la première fois Alexandre. Et au fil de ces rendez-vous, tout ce jeu... entre le simulacre et la vérité va se développer.
Elle va lui avouer ensuite qu'elle l'a fait exprès pour, un peu plus tard. Oui.
Oui.
Et d'ailleurs, curieusement, en réécoutant la bande-son, je me suis aperçu qu'Alexandre reprend des paroles de Véronica. Il dit « ça n'a pas d'importance ». Et le mot « ça n'a pas d'importance » revient très souvent dans la bouche de Véronica, qui dit souvent aussi un maximum, ou alors elle dit souvent « rien à foutre ». Voilà. C'est son côté un peu désespérado, hein, mais en même temps, quelqu'un qui a beaucoup de vitalité aussi, beaucoup d'énergie. Mais elle dit souvent « ça n'a pas d'importance ». Et il reprend finalement les termes. Et du reste, c'est ce que disait Monique, hein, parler avec les mots des autres, c'est peut-être ça la liberté. Parce que Alexandre ne cesse d'emprunter le langage des autres.
Moi, ce qui me frappe, c'est quand il dit justement, c'est quand il avoue sa disponibilité totale. Tu vois, je suis totalement libre. Elle a un travail d'infirmière, mais lui, a priori, comme il est artiste-écrivain, si j'ai bien compris, il est parfaitement disponible. C'est le dandy de c'est un des dandys de Saint-Germain-des-Prés, dont on a parlé tout à l'heure.
Il se vante.
Ouais, il se vante.
Il ne rien faire.
Oui, il se vante.
Je peux ce que je veux.
C'est une posture de dandy, oui. Voire de petit maître, parce qu'il envoie aussi des conseils, donc c'est cette liberté là de parole dont on parle.
Il se vante de rien faire, faire la vaisselle quand même.
Non, voilà. En fait, il vit quand même au crochet de Marie, la maman, jouée magnifiquement par Bernadette Lafont, qui est elle-même mariée, qui est elle-même avec un autre gars, je crois, Philippe.
Oui, tout à fait.
Un autre gars qu'elle va rejoindre à Londres. Donc j'avance peut-être un peu vite, je ne sais pas.
Oui, c'est très bien. C'est assez mystérieux cette histoire aussi de parler à fond avec son copain.
Chacun avoue en fait sa petite intimité cachée en fait. Hey, je fais ça pour un peu piquer peut-être la jalousie en disant notre situation un peu bancale d'amant avec une femme mariée. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Et la jalousie finit évidemment par éclater.
C'est la jalousie qui remportera le morceau.
Puisque finalement, les personnages veulent finalement au bout du compte peut-être.
En cela, c'est très proustien, de toute façon.
Oui, une situation finalement stable et normale, entre guillemets.
Mémorique.
Oui. Ah oui, il y a tout un travail, en effet, sur les contradictions de ces personnages, qui sont aussi ceux de l'époque, entre la libération sexuelle, le jouissez sans entrave,
qui a été un mot d'ordre. On n'a pas posé 68.
Après 68, on y reviendra sans doute.
Oui, bien sûr.
Et puis, cependant, la vérité profonde des sentiments, même s'ils sont niés par les personnages, même si Alexandre affirme que les élégiaques sont des crapules.
Oui. Élégiaques, parce que c'est un mot. Élégiaques, donc c'est ceux qui se complaisent
le lyrisme de la plainte.
La plainte, mélancolie.
Or, lui-même est souvent dans la plainte. Il est celui que l'on quitte et celui qui n'a jamais quitté personne. personne. Bon, il est dans la dénégation et il est dans le simulacre et le mensonge. À propos du simulacre, oui, peut-être qu'on pourrait développer cet aspect-là.
Cette nuit, il y avait une émission sur Baudrillard, d'ailleurs, sur le simulacre, oui, qui m'a paru quand même un peu théorique. Bon, voilà, mais allons-y.
Alors, bon, moi j'avais eu l'idée d'aller relire les fragments d'un discours amoureux de Barthes, parce que il y a une attitude, enfin une conduite, un comportement de Alexandre, Léo, qui est très symptomatique. Il a très souvent des lunettes noires, les mêmes que celles que portait Eustache. Il les met parfois dans un café, à un moment donné... dans la tirade ou le monologue, au moment précisément où la douleur est sans doute plus grande. Il s'agit à la... Elle est donc... Ces lunettes noires sont un indice, mais elles sont aussi un masque, oui, un cache. Alors, les fragments d'un discours amoureux de Barthes, c'est 77, et je me suis demandé si Barthes n'avait pas vu le film... Oui. Et s'il n'y avait pas pensé.
C'est fort probable qu'il ait vu le film.
C'est possible. Il y a un chapitre intitulé « Les lunettes noires ». Et Barthes dit cela, qui me paraît commenter complètement l'attitude de Léo. « Imaginons que j'ai pleuré par la faute de quelque incident dont l'autre ne s'est même pas rendu compte. » C'est la situation la plupart du temps. « Et que, pour que ça ne se voit pas, je mette des lunettes noires sur mes yeux embués. » Bel exemple de dénégation, s'assombrir la vue pour ne pas être vu. L'intention de ce geste est calculée. Je veux garder le bénéfice moral du stoïcisme, de la dignité, et en même temps, contradictoirement, provoquer la question tendre « Mais qu'est-ce que tu as ?» Je veux être à la fois pitoyable et admirable. Je veux être dans le même moment enfant et adulte. Ce faisant, je joue, je risque, car il est toujours possible que l'autre ne s'interroge nullement sur ses lunettes inusitées et que dans le fait, il ne voit aucun signe. Donc c'est tout ce jeu trouble pervers, il est dans le film constamment.
Ouais, c'est ça. Alors, porter des lunettes noires, c'est assez rock, de toute façon. Les punks porteront des lunettes noires juste à cette période-là. Et ne pas oublier ce que Gainsbourg fait dire à Adjani dans son disque. Il veut dire « mettre mes lunettes noires » pour montrer tout ce que je veux cacher. Voilà, donc alors, c'est vrai que moi, ça m'a toujours... Je trouve que chez Jean Eustache, par exemple, quand on le voit dans des interviews sans lunettes, on a cette impression de grande humanité, et dès qu'il enfile ses lunettes noires, on dirait, en fait, un peu une panoplie de cinéastes, ça le rend plus important, plus mystérieux. Et ça, j'ai remarqué ça dans les entretiens, notamment qu'il a avec mon ami, puisque c'était un peu mon ami, André Labarthe. Il a un entretien et sans ses lunettes noires, il parlait d'une humanité, voire d'une fragilité, voire d'ailleurs d'un dépouillement. Hein. C'est ça qui m'a frappé chez Jean Eustache, cette espèce de mise à nu qu'il a, et on voit ça quand même un peu dans ses films, cette mise à nu.
Oui. Bon, juste pour ajouter, Pascal Bonitzer dit « Je soupçonne dans son indifférence toujours plus profonde qu'il y avait un secret et intraitable défi. Il accusait silencieusement les vivants. » Donc il y a ça aussi chez Jean-Pierre Léo. Cette mise en accusation du monde, seul contre le monde.
Absolument, c'est ça l'artiste un peu. Alors les acteurs, dont tu nous dis quelque chose, Olivier, sur les acteurs ?